Le train IC à destination de Chigny et des Comptes démarre dans quelques instants.
Régine Demey habite sur le sentier du Berger, à Corroy-le-Grand. C'est aussi à cette adresse que se trouve l'ASBL Tout est là. C'est un lieu naturel, co-géré par consensus, où la mixité des âges est valorisée et la différence accueillie et partagée. Régine Demey est aussi psychologue, et chez Tout est là, elle propose des rencontres avec ses chevaux pour se balader avec eux, à côté d'eux ou sur leur dos. On peut se réconcilier aussi avec les chevaux et les soigner si l'on veut. Il y a Zorro, aussi un adorable chien d'1m20 plus ou moins. Alors, Tout est là propose aussi des ateliers art et nature ou encore cheval, nature et art et tout autre atelier que vous désireriez proposer et animer. L'objectif étant de co-créer un lieu de soins du corps, du cœur et de l'esprit, libre et inventif par la rencontre de soi, des autres et de son environnement. Mais pas que. Et puis je parle alors que Régine est là pour vous partager son conte. Alors, écoutons-la.
Il y a bien longtemps. Bien longtemps. En Corée. En retrait de la ville, il y a un temple. Dans ce temple, des disciples méditent tous les jours, à heure fixe, toute la journée. Parmi eux, Maître Wonyo. Il est là, pilier central du temple. C'est une saison particulière. On entend les oiseaux chanter, la sève monte dans les arbres, jusqu'au bout des branches. Autour du temple, des jardins. Bien rangé, avec des petits points d'eau, des allées en petits cailloux. Tout le monde médite, tous les jours, à heure fixe. Ils sont assis en lotus, les yeux vers le sol. Leurs pouces se touchent. Leurs crânes sont rasés. Ils inspirent. Ils expirent. La sève monte. Les oiseaux chantent. L'eau coule dans le bassin. En cette saison, les femmes du village viennent près des autels, près des petites sculptures de Bouddha. Elles y déposent des fleurs, elles brûlent de l'encens. Ce jour-là, Maître Wonyo est assis sur sa chaise haute parmi ses disciples. Le regard vers le sol, il inspire, il expire. Des bruits d'étoffe, le son de petits pieds nus sur le sol, un parfum de lotus, des respirations fines, saccadées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes dans le temple. Maître Wonyo inspire et dans son ventre, il inspire. dans son ventre. Le calme revient. Le lendemain, les femmes reviennent. Froufrou d'étoffe, parfum enivrant. De la rose dans son ventre. Il inspire. Il expire. Troisième jour. Les parfums enivrants, les étoffes, les petits pieds nus sur le sol. L'encens lui tourne la tête. Il inspire et son ventre. Des sueurs froides. Il expire. Le calme revient. Sixième jour. Les sueurs montent. Les flammes grimpent dans son ventre. Il expire. Les sueurs froides. La flamme dans son ventre. Le septième jour. Il se lève. Il monte dans sa chambre. Il prend son livre. Une plume, un sac, de l'eau. Il quitte le temple. Il court, 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 il court. L'orée de la forêt. Il entre. La petite brise dans les feuilles. Le calme dans son ventre, jusqu'au bout de ses pieds et de ses doigts. Il entre dans la forêt. Des craquements. Des bruits sourds. Il se retourne. Il expire, tout va bien. Le calme dans son ventre. Une rivière, il s'arrête. Il boit un peu d'eau, un figuier. Il prend des petits bois et il construit une cabane. Il s'installe dans la cabane. Il s'assied en lotus. Il inspire. Il expire. La nuit tombe. La lune apparaît. Il a les yeux posés vers le sol, il est en lotus, il a les bouches qui se rejoignent, tout va bien. Au milieu de la nuit, Maître Wonyo, Maître Wonyo, Maître Wonyo, dans son ventre, la flamme revient, il souffle. Maître Wonyo, aidez-moi, s'il vous plaît. Les flammes remontent dans son ventre tout entier. Il n'est plus qu'un brasier. Il se lève. Il entend un craquement à l'entrée de sa cabane. Il voit une silhouette, une femme, une délicate femme, jeune femme, habillée de blanc, une robe fine, fine. Et il voit à travers les courbes de la jeune femme, et puis ses seins, et puis ses hanches. Il voit surtout ses grands yeux noirs profonds et sa bouche est légèrement bleutée. Aidez-moi, s'il vous plaît, Maître Wonyo, frottez-moi, réchauffez-moi, j'ai froid. Elle entre dans la cabane, elle se couche par terre. Aidez-moi, s'il vous plaît, frottez-moi, s'il vous plaît, le corps. Il s'agenouille, il pose ses mains. Il frotte, il frotte, il frotte, et dans son feu, le brasier l'envahit tout entier. Il frotte et la paume de ses mains tombe sur un petit bouton pointu là sous ses mains. Ah ! Il se lève d'un bond et il sort, assoiffé. Il court plus vite qu'il le peut. Il chope sur des branches, il ramasse des feuilles dans la tête, dans les cheveux, dans les yeux. Il court, il traverse la forêt dans la nuit noire. Il tombe par terre dans la nuit. Il est à genoux. Il sort sous sa bouche, sous ses mains, un peu d'eau. Il met l'eau à sa bouche et il boit. Il s'endort. Il rêve de l'eau. Les flammes s'éteignent. Le calme. Le matin, le soleil tape sur son crâne, chauve. Ça cuit un peu. Il se réveille. Il ouvre les yeux. La forêt est lumineuse. Il voit les oiseaux, il voit les feuilles. Et juste à ses pieds, il voit de la boue. Une eau fangeuse avec, avec des vieux cadavres de petits animaux. Il regarde bien et il se redresse, il dit, mais oh, c'est cette eau-là qui m'a désaltéré hier, c'est cette eau-là qui m'a apaisé. Il redresse les épaules. Mais oui. Là, il se retourne, il court dans l'autre sens, il fait demi-tour. Il traverse les branches, les arbres, les bûches, les ronces, il se griffe. Un peu comme Blanche-Neige, hein, dans l'histoire, hein, Blanche-Neige. Ben voilà. Enfin, il traverse plus vite qu'il peut. Et là, devant la cabane, il s'arrête une seconde, il voit la jeune fille par terre. Elle est bleue, son visage est légèrement bleu. Il rentre dans la cabane, il se met à genoux devant elle. Il la prend dans ses bras, il la serre très très fort et puis... Il se serre contre elle et surtout il la frotte de la tête aux pieds et doucement, mais ses mains impriment chaque courbe et doucement il sent le souffle de la jeune fille dans son cou. Ils roulent tous les deux dans la cabane. Et pendant des heures, il partage sa chaleur. Il sent sa poitrine s'ouvrir. Il sent son ventre s'ouvrir. Et le calme revenir. La jeune femme s'endort. Il caresse sa joue. Il se lève. Il sort de la cabane et là, il y a la rivière, le figuier. Il entre dans l'eau, il se désaltère, il se lave sous le soleil. Il sent toute sa peau, tout son corps respirant au milieu des arbres. On entend la crabane, hein, la crabane. C'est marrant ça, une crabane. C'est une cabane qui craque, une crabane. Voilà, on entend la crabane. La jeune fille sort de la crabane. Maître Wognaud se cache l'entrejambe. Et puis, il se ressaisit. Et la jeune femme lui dit, mais vous avez peur des jeunes filles, Maître Wognaud? Et il s'avance vers elle. Et il tend son doigt, son index vers sa poitrine à elle. Et il lui dit, tout est là. La jeune fille dit, c'est bien, Maître Wognaud. J'étais juste venue vous rappeler ce que vous saviez déjà. Et elle disparaît vers le ciel, évanescente.
Ouais, tu sais, j'ai pas trop d'idées, alors je préfère écouter, car s'écouter, ça compte.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sarah.
Bonjour Anna.
Alors vous êtes sur les ondes de S'écouter, ça compte, la radio éphémère dédiée aux contes et à l'oralité. Cette radio éphémère est portée par la CRAX, Chigny Cité des Contes et Radio Sud.
Chaque année a lieu le Festival du Conte de Chigny. Cette année, à cause des mesures sanitaires, c'est en studio et à distance que ça va se dérouler. Nous sommes ici dans le studio de 48 FM, une radio locale liégeoise. Et nous allons tout de suite commencer par accueillir Olivier Villanov, qui est conteur. Bonjour Olivier.
Et bonjour à vous.
Alors Olivier, vous trouvez ici dans la forêt. Nous, ici, parce que vous êtes en train de réaliser un atelier. Sarah et moi sommes ici en studio et c'est comme ça qu'on va réaliser ce petit interview. Alors Olivier, on va commencer par vous poser quelques petites questions et puis on passera à un conte que vous allez nous raconter. Donc vous êtes spécialisé dans les contes pour ados et adultes et vous avez déjà participé à plusieurs festivals. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ?
Eh bien moi, j'ai commencé à raconter des histoires autour de l'an 2000. J'aime bien dire autour de l'an 2000, c'est comme très initiatique, comme un bon début. Et j'ai commencé au Canada, au Québec exactement, dans la ville de Montréal, dans un lieu qui s'appelle le Sergent Recruteur. Et j'ai été pris sous l'aile d'une conteuse un peu comme un maître qui s'appelle Claudette Lheureux et qui m'a initié au conte, qui m'a permis d'explorer qu'est-ce que c'est un répertoire de conteur, qu'est-ce que j'avais envie de dire et pourquoi j'avais envie de le dire. Et je me suis forgé mon identité de conteur en racontant des histoires dans les cafés principalement. Pour le démarrage, c'est une vraie tradition qu'il y a au Canada. Et de retour en France, j'ai monté un collectif de conteurs sur la ville de Bordeaux où j'habite. Et on a travaillé ensemble pendant plusieurs années à explorer le conte dans toutes ses possibles, en forme de conteur tout terrain. En 2005, j'ai eu le prix, le Grand Prix de Chevilly-Larue qui m'a ouvert les portes de tous les festivals de France. Et c'est comme ça que j'étais même venu à Chigny. Et avec ça, j'ai tourné pendant pas mal d'années avec mon répertoire de conteur, créé des spectacles de contes, d'oralité. Et petit à petit, je me suis vraiment intéressé à la place de la parole dans l'espace public et de raconter dans les espaces non dédiés, ce que les conteurs savent au préalable très bien faire, mais c'est des fois sans le savoir. Et j'ai fait une formation autour de mes 40 ans à Marseille, une école qui s'appelle la FEA, Formation avancée itinérante aux arts de la rue. Et aujourd'hui, je suis vraiment devenu un conteur qui travaille dans l'espace public et qui raconte l'espace public. Voilà un peu mon parcours. Aujourd'hui, j'ai une compagnie qui s'appelle l'Agence de géographie affective. Et le récit, les symboliques sont toujours au cœur de mes préoccupations. Et je travaille notamment beaucoup sur les peurs et les frontières qu'on dépasse.
D'accord. Et donc du coup, vous êtes ici spécialisé dans les contes pour ados et adultes. Pourquoi ce choix ?
Alors, je ne suis pas si spécialisé que ça dans les contes ados-adultes. C'est comme si j'avais fait une longue formation là-dessus. moi, mes histoires, en tous les cas, j'aime bien qu'elles touchent aussi bien l'enfant que l'adulte. J'aime bien, en tous les cas, que ça rassemble. Et j'aime beaucoup l'image, en tous les cas, quand une famille vient voir un spectacle, quand ils repartent dans la voiture, que les enfants et les parents puissent discuter ensemble et partager des réflexions sur le monde, sur la façon d'être ensemble, de vivre ensemble. J'aime bien la double lecture, en tous les cas, moi, dans les histoires ado-adulte. Ensuite, j'ai eu des spectacles adultes, j'ai eu des spectacles enfants. Non, je dirais que j'ai grand plaisir à être surtout les tranches d'âge.
D'accord. Et vous faites aussi des ateliers si vous étiez en forêt. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, tout à fait.
Alors là, je suis en résidence de création. Ça veut dire qu'on est en train de travailler avec une équipe artistique autour d'un projet de création. Ça s'appelle Même pas peur. Et suite au confinement, moi, j'étais confiné avec un garçon de 10 ans qui s'est beaucoup interrogé sur le devenir du monde. Et on a partagé aussi des réflexions sur les peurs et le courage qu'on a pour les traverser. Et c'est des questions qui me préoccupent, qui m'intéressent. Et du coup, on est parti sur un duo avec un circassien. Le cirque, j'aime beaucoup parce qu'on a toujours le frisson quand on voit un numéro, quand on monte en hauteur, de se dire « est-ce qu'il va tomber ?» Et du coup, ça me parle beaucoup pour la peur. Et j'aime bien le conte aussi en images corporelles, physiques, investies, engagées. Et je trouve aussi que souvent, le corps raconte autant que nos mots. Alors, on est parti à travailler ensemble. Et on est avec une metteuse en scène qui nous aide à accoucher de nos histoires et on est un peu autour de l'histoire de Blanquette, de la chef de Monsieur Seguin. Et avec les histoires de périmètre qu'on avait en France, d'un kilomètre à ne pas dépasser, la chef de Monsieur Seguin, quand même, ça nous raconte pas mal de choses.
Et est-ce qu'être en plein air, c'est quelque chose qui vous plaît ?
Alors là, c'est formidable. On est au milieu des bois, dans le théâtre où on est accueilli en résidence. Il y a une équipe qui est enfermée dans la boîte noire. Je ne les envie pas une seconde. Aussi, il y a des gens qui passent, là, qui s'arrêtent, qui nous regardent. On est dans la vie. Et la vie participe du coup à l'écriture et au jeu ensuite. C'est ça qui me plaît quand on est en extérieur. On cherche forcément des lieux un peu intimistes parce que la parole a besoin d'être entendue quand elle n'est pas amplifiée. Mais on touche aussi beaucoup de gens, du coup, comme ça.
Très bien. On va
et le lieu raconte.
Pardon.
Les lieux nous racontent. La forêt, là, on est dans une petite forêt ombragée et on commence notre histoire. La nuit tombe, on est entre chien et loup. Entre chien et loup. Et du coup, le cadre s'y prête déjà pour nous inviter dans une atmosphère.
Très bien. On va maintenant passer à l'écoute du conte que vous allez nous raconter. Vous avez choisi un conte qui est issu de votre spectacle Carnet de bord, et qui raconte des histoires fantastiques en mer. On va l'écouter tout de suite, mais on voulait vous demander pourquoi avoir choisi celui-là.
Parce que je crois que quand j'étais venu à Chigny, j'avais raconté cette histoire-là et que j'étais avec mon amie Claudette du Québec. Et à la fin du spectacle, elle m'a dit « Ah, cette histoire, tu me la donnes ?» Et puis elle l'a mise dans un de ses répertoires et puis du coup, elle la raconte au Québec. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est avec ce festival éphémère virtuel sur la question de dons, de partage. Et voilà, c'est des histoires à voyager, que ceux qui les entendent, c'est à vous. Racontez-les à votre tour.
Très bien, on va maintenant écouter, nous la raconter.
Allez, c'est parti. Moi, quand j'étais petit, je vivais sur un bateau, un voilier qui voguait sur les mers de la Méditerranée. De plus loin, je me souviens quand on me demande Olivier, c'est mon prénom. D'où est-ce que tu viens ? Je suis embêté pour répondre parce que moi, mes racines, je les plante dans le vent et puis je me laisse pousser par le courant. D'un port vers une île, une crique, un continent, une partie de foot en Espagne, une traversée et une partie de cartes frénétiques en Afrique du Nord. Salam alaikum, wa alaikum salam. T'as un petit creux, pas de souci. On se fait un bon plat de spaghetti à Rome, une traversée et un loukoum à la pistache à Istanbul. Un sourire à Marseille, un baiser volé en Sardaigne. J'ai pas le temps de m'arrêter. Moi, je suis toujours de passage. Toujours de passage, toujours sur le bateau. Le mistral qui gonfle la grande voile, la vague qui pousse le bateau. Mon père, il est à la barre. Moussaillon, je vais te donner un conseil. Si tu fais pipi contre le vent, tu te mouilles les dents. Mon frère, il monte la voile comme si c'était rien du tout. Oh, is, biceps, oh, is, triceps, oh, is, plaquette de chocolat. Il est fort comme quatre, mon frère. Et ma mère. À peine on a jeté l'ancre dans la crique, juste devant le port, qu'elle sort la tête par le hublot, c'est la fenêtre du bateau, et qu'elle nous dit « Allez, moussaillon, on débarque à terre pour faire les provisions. » On gonfle le you-you, c'est la petite annexe, et on arrive dans le port. Et là, on est accueilli par ma grand-mère. Ma grand-mère, elle tient le café du port. Et autant dire qu'elle tient aussi le pantalon. On a fait les commissions, on a mangé chez elle, et mon père, mon frère et ma mère sont repartis sur le bateau, et moi, je suis resté avec ma grand-mère. Je suis resté à terre. C'était mes vacances à moi. J'en revenais pas. J'ai vu le bateau partir au large, et c'est à ce moment-là, pas plus haut que trois pommes, je devais avoir 5-6 ans, que j'ai réalisé que j'avais une chance inouïe de vivre sur un bateau. J'ai regardé ma grand-mère et j'ai dit d'où ça vient le rêve de mon père de faire du bateau, d'être en mer. Et ma grand-mère, elle m'a dit, oula, il faut que je te parle de ton grand-père. Parce que quand je l'ai épousé, ton grand-père, il avait deux possibilités. Soit il rentrait dans la marine nationale et puis il partait au long cours, soit il devenait marin-pêcheur et rentrait tous les soirs. Je préfère qu'il soit marin-pêcheur comme ça, je sais où est-ce qu'il est toutes les nuits. Ils se sont mariés, et puis mon grand-père, bonjour, mauvais jour, allait en mer, jeter son filet, remonter du poisson. Mais il avait un vieux bateau, tu te demandes comment la mer faisait pour l'accepter sur son dos. Il était tout le temps en train d'écoper, c'est-à-dire retirer l'eau, parce que l'eau s'infiltre, la voile est déchirée, le moteur est tout le temps enroué, et tout le monde se moque de lui dans le port. Mais lui s'en fiche, tant qu'il a de quoi, il est heureux. Un jour, il a remonté son filet et il a trouvé une vieille, vieille, vieille bouteille. Un marin pêcheur, c'est bien prévoyant. Il a son tire-bouchon. J'espère que vous avez bien entendu quand ça fait le pop. Et là, rien, même pas de carte au trésor. Oh, il est déçu, mon grand-père, mais il y a un petit filet là, de fumée qui sort, une brume qui s'élève dans les airs comme un nuage. Paf ! Un génie ! Et une voix tonitruante qui dit « Je suis le génie de la bouteille. Je suis enfermé ici depuis des millions d'années. Alors, je t'exauce un vœu. Bon, un seul, parce qu'en ce moment, on est en période de récession. » Mon grand-père, il ne savait pas quoi demander. Bon, il est de signe astrologique balance, hein, ça pèse. Alors du coup, il était là, qu'est-ce que je peux dire ? Mais il se mordait les lèvres. Parce qu'il connaissait la petite histoire du gars qui est dans le désert, qui trouve une lampe magique, t'as droit à un vœu. Oh, je sais pas, laisse-moi 5 minutes pour réfléchir. Tu me demandes 5 minutes, pouf, tu les as. Il connaissait cette histoire-là. Du coup, il n'a rien dit. Et le génie, il a fait, oh ouais, moi là, je suis enfermé dans la bouteille depuis des milliers d'années, autant dire qu'il faut que j'aille voir mon ostéo. Du coup, reviens me voir demain, même heure, même endroit, et tu me diras ce que tu veux. Le génie a disparu. Et aussitôt, il a su quoi demander, il avait les pieds dans l'eau. Bah ouais, son bateau est en train de sombrer, la voile déchirée, le moteur, il est obligé de pagayer. Il rentre au port dans son vieux rafio, et ce qu'il veut, mais bien sûr, bon sang, bonsoir, c'est ça, c'est un beau bateau pour faire le tour du monde avec. Il va voir sa femme. Quoi ? Tu veux un bateau ? C'est ça que tu vas demander à ton génie ? T'es un égoïste. Tu sais ce que c'est qu'un égoïste ? Bah c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Bah ouais, demande-moi donc ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un ventre rond, un ventre qui sourit, avoir un petit bébé. Écoute, on a ici toutes les potions, toutes les lotions, toutes les positions. On n'arrive pas à avoir d'enfant. Demande à ton génie un petit bébé, sinon tu ne rentres pas à la maison. Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il est allé voir sa mère. Une mère est toujours bonne conseillère. Quoi, mon fils ? Tu veux un bateau et ta femme veux un petit bébé, mais demande-moi donc ce que je veux. Moi, toute ma vie, je me suis échiné à travailler pour te donner une bonne situation. Non seulement tu es devenu marin-pêcheur, mais en plus, je suis devenu aveugle à force de faire de la couture dans le noir. Demande donc à ton génie qu'il me rende la vue. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il est allé se coucher et il a eu la maladie des ch'tournes. Tu sais ce que c'est, la maladie des ch'tournes ? Tu es sur ton oreiller, tu cherches le sommeil et je tourne d'un bord et je tourne l'autre bord et je tourne d'un bord et je tourne l'autre bord. Jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Il est reparti dans son bateau. Le génie est apparu. Alors, ben qu'est-ce que tu veux ? Le petit bébé, la vue de sa mère, son bateau, mais quoi demander ? Qu'est-ce choisir ? Je sais. Ce que je veux, c'est que ma mère, elle voit mon fils dans le plus beau des bateaux. Les trois vœux étaient réunis en un. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans le rêve de mon père, qui n'était ni plus ni moins que le vœu de mon grand-père. J'ai regardé le bateau disparaître en écoutant cette histoire de ma grand-mère et je me suis demandé, moi, mon rêve, mon vœu, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça a bien gambergé dans ma tête et c'est bien plus tard que j'ai réalisé, en racontant cette histoire-là, que mon rêve à moi, c'était de vous raconter cette histoire-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé jusque sur vos ondes. Il en faut des histoires pour en faire une seule.
Il en faut. Merci beaucoup pour cette jolie histoire.
Je l'ai adorée.
Plaisir.
Oui, c'était super chouette. Merci.
On va maintenant passer un peu de musique.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous sur les ondes de S'écouter, ça compte. Et à très bientôt.
Et longue vie, bientôt. Longue vie au Festival de Chigny.
Longue vie au Festival de Chigny, oui. Exactement. Au revoir. On va maintenant passer un peu de musique.
I was out there with a thirst and hunger. I was out where I could feel much younger. I was kneeling, await some revealing, some release for these worn out knees. It don't matter what you say or do, what you feel, it comes right after you. You've been losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets.
a smoking night owl. Get your kicks now down these wicked streets where I was shaking and I was preaching over again. Shouldn't come around if you don't want to feel a thing. It's under your skin, God knows, unlike anything. It shows what you reap and you did so. It don't matter what you say or do. What you feel, it comes right after you. Been losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets.
Bonjour, je suis Antoine de Radio Sud. Avec notre promo festival, vous bénéficiez de 30 comptes pour le prix d'un. Et vous savez quoi? Ça reste gratuit, car s'écouter, ça compte.
Umesha est conteuse et travaille actuellement sur un récit inspiré de la mythologie hindoue qui s'appelle Kali. Le conte qu'elle veut partager avec vous aujourd'hui s'appelle Le Rancard et c'est une expérience personnelle qu'elle a mise en mots.
Élise a dit « C'est un rancard ou c'est une performance ?» Lui, il a écrit « Mais t'es complètement folle. » Et moi, j'ai pensé « C'est bien beau d'écrire des histoires. Il est temps d'en vivre. » C'était le mois de novembre. Début d'après-midi, le ciel était dégagé, il y avait même du soleil. J'étais devant le Mont des Arts et sur mon dos il y avait un sac. Il était très lourd. Je suis arrivée dans la Bibliothèque royale de Belgique, la KBR. Et c'est là que j'ai croisé mon amie Élise. Elle essayait de s'inscrire à la bibliothèque et ça avait l'air d'être une véritable galère. Alors je suis restée un peu avec elle. Je suis restée un peu avec elle parce que j'avais de l'avance et que arriver en avance à un rendez-vous, ça se fait pas trop. Puis le temps a passé et il était temps pour moi d'y aller. Alors j'ai dit au revoir à mon ami. J'ai traversé un long couloir et je suis arrivée devant un ascenseur. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je suis rentrée dedans, j'ai appuyé sur un bouton, les portes se sont fermées et là, l'horreur. Dans l'ascenseur, il y avait un miroir. Et c'est là que je me suis mise à douter. Je me suis mise à douter de mon pantalon, de mon pull, de la combinaison entre mon pull et mon pantalon. Et puis c'était quoi ces cheveux, ce maquillage qui avait coulé, ces énormes cernes et puis cette peau déshydratée. Et c'est à ce moment-là que la porte de l'ascenseur s'est ouverte. J'étais arrivée au 5e étage et c'était trop tard. Il fallait y aller. Alors j'ai respiré profondément. J'ai pris mon air le plus décontracté possible et je suis rentrée dans la cafétéria de la Bibliothèque royale de Belgique. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un homme assis seul à une table. Il m'avait prévenu. De noir, il serait vêtu. Et moi, je l'ai reconnu. Je me suis avancée vers sa table. J'ai déposé mon sac sur une chaise, ma bouteille d'eau pétillante sur la table et puis je me suis assise en face de lui. Et on n'a rien dit. Non, rien. La règle du jeu était simple. C'était notre première rencontre. Une première rencontre qui allait se faire dans le silence. Pas un mot, pas une parole échangée. Lui pouvait choisir le lieu. Il a choisi la cafétéria de la KBR et il était occupé à faire des recherches là-bas. C'était le silence, mais on pouvait lire. Alors c'est bien pour ça que mon sac était plein... a craqué, je l'ai ouvert et puis j'ai déposé sur la table une série de romans graphiques, des recueils de nouvelles, de poésie. Il les a regardés. Il a choisi Mauvais genre. Ça tombait bien, je voulais qu'il la lise. Et quant à moi, j'ai pris Pereira Prétend. Ça faisait plus d'un an qu'il attendait dans ma bibliothèque et puis là je l'ai pris et puis j'ai prétendu de lire. Ouais, c'était difficile de se concentrer. Oui, moi j'avais imaginé plein de choses, bien entendu. J'avais imaginé, par exemple, que quand nos regards allaient se croiser, que le temps allait s'arrêter et que tous nos rendez-vous allaient se passer comme ça, les yeux dans les yeux. Qu'à un moment, moi j'allais me lever, j'allais m'approcher de lui, me pencher sur lui. Avec ma main, j'allais doucement lui caresser... Enfin, rien de tout ça ne s'est passé. Non, en vérité, nos yeux ne se sont pas décrochés des planches de nos romans graphiques. Non, mais il y a quand même eu des regards échangés. Et puis, il y avait un jeu. Un jeu qui permettait à chacun de nous de regarder l'autre tranquillement. C'est-à-dire que quand je le regardais, lui, il était plongé dans sa BD, il lisait, et moi, j'avais tout le loisir de le regarder. Et puis lui, il levait les yeux, et moi, j'allais me cacher dans les planches du roman, et je le laissais me regarder, me dévisager. C'était étrange et agréable comme sensation. puis il s'est mis à tousser. C'est comme s'il avait un chat dans la gorge, et comme sa tasse de café était vide, je lui ai tendu ma bouteille d'eau. Il en a bu quelques gorgées. Puis moi, je me suis dit que c'était quand même beau, un homme qui lisait. C'est beau, le silence. C'est beau, un silence partagé. Et puis ce silence dans lequel se dessinent tous les possibles. Il a fini mauvais genre, il l'a déposé sur la table, il a replié son ordinateur, il l'a glissé dans son sac, puis il s'est levé. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire assez timide, et puis de la main, il m'a fait un signe. Il m'a dit au revoir. J'aurais pu le suivre, j'aurais pu sortir de la cafétéria et mettre fin à ce jeu. Mais je suis restée. Oui, je préférais rester. Élise a dit, c'est un rencard ou c'est une performance? Lui, il a écrit, mais t'es complètement folle. Et moi, j'ai pensé, il est temps, non ?